Numéro 8. On est le 16 février. Avez-vous passé une belle Saint-Valentin? Avez-vous mangé des chocolats?
Oui, des petits chocolats en cœur.
Avez-vous fait l'amour? Ben, pour ceux qui sont en couple. Pour les autres, est-ce que vous vous êtes fait l'amour? C'est important, ça. Aussi.
Moi, je dévoile pas j'ai fait du sexe.
Ah non.
C'est privé, ça.
Exactement.
On commencera pas à en parler en nombre.
On vous souhaite à tous un excellent lundi. Merci de débuter votre lundi avec nous autres. À partir de 10h, ce sera Max Larouche qui sera là pour le Point de Max. Midi, le chum Jeff Fortin va être là avec Antonine Iaccarini et Mathias Fortin.
Gros midi parce que c'est le
Mathias,
rapport de la...
Mathias Turcotte. Mathias Turcotte.
C'est un très gros midi. Premièrement, merci à Mathias qui, même si c'est co-animateur avec moi, va être sur le terrain ce matin à 10h pour la conférence de presse de Respect Citoyen.
Oui.
Concernant les travaux du tramway et les arbres coupés sur René Lévesque, vous le savez, on a fait un gros dossier, ceux qui écoutent en jase, vendredi avec le comité de citoyen Montcalm. Après ça, ben à 11h30, c'est le commissaire Galland qui prend le micro et qui dépose son rapport. Fait qu'on va avoir de la matière en masse à jaser avec Antonine.
Mm-hmm.
Le PM va réagir à 1h30, on va sûrement mettre ça en direct. Mon chef dérégé est censé venir s'asseoir en studio. Bref, on va parler aussi à l'ancienne ministre libérale Christine Saint-Pierre qui était dans les libéraux au moment du dépôt du rapport de la commission Charbonneau. Donc, elle va pouvoir nous expliquer les coulisses du pouvoir lorsqu'on reçoit une brique comme ça par la tête.
Ah non, j'ai très hâte de voir ça. Puis on profite du fait que David Chabot est en studio avec nous autres, qui a travaillé en politique longtemps. Salut David.
Ben salut.
On va parler de petite chronique internationale dans les prochaines minutes. Mais juste avant, là, qu'est-ce que... Supposons que Guilbeault est blâmé sévèrement, parce qu'on le sait qu'elle était au courant alors qu'elle a dit sous serment qu'elle n'était pas au courant.
Ouais.
Peux-tu... Parce que mentir, c'est jamais bon, là. Mais mentir sous serment, normalement, tu peux avoir des problèmes par la suite. Sinon, ça vaut rien, là, un serment.
Bien, j'ai pas la réponse, mais je sais pas si c'est une commission d'enquête, ça a-tu le même pouvoir coercitif que le tribunal, vraiment, dans le système juridique?
Non, mais normalement, si t'es sous serment, à quoi ça sert de mettre un serment si t'as pas à payer le prix si tu mens? Ben, je dis pas que Mme Guilbeault a menti, ça se peut que ce soit un trouble de mémoire, ça peut arriver à tout le monde. Mais advenant le cas où c'est prouvé qu'elle a menti, puis elle était sous serment...
Ouais, mais tu sais, excuse-moi.
Non, mais vas-y. Lambert Drainville m'a dit vendredi que le commissaire Galland pourrait insérer dans son rapport une recommandation pour que le procureur se penche là-dessus.
C'est ça, ça tombe dans le vrai système juridique par la suite.
Exactement. Donc, lui, il peut pas dire « je vous amène au criminel » parce que c'est une commission d'enquête, mais il peut mettre dans son rapport, puis là, tu parles de Geneviève Guilbeault, il pourrait mettre dans son rapport « je suggère fortement au procureur général » de se pencher sur le dossier du mensonge sous serment.
Dans le cas où elle a menti.
Dans le cas où elle a menti. Donc, pourrait le faire pour Geneviève Guilbeault, pourrait le faire pour Karl Malenfin, pourrait le faire pour Denis Marcellin, l'ancien DG également de la SAC. Alors, tu pourrait le faire pour l'ensemble des participants qui sont passés à la commission Galland. Si lui juge que selon les données qu'il a, c'est des mensonges qui ont été mentionnés.
C'est François Legault, un blâme sévère comme ça, tu gardes-tu cette personne-là, ministre?
Ben là, premièrement, en ce moment, là, il est un peu lame duck, fait que, tu sais, il va-tu changer le conseil des ministres à moins que quelque chose de vraiment majeur? Puis là, c'est tout le temps la même histoire. Est-ce qu'elle a menti? C'est-tu un mensonge par omission? Est-ce que c'est vraiment qu'elle s'en est pas souvenue? Prouve-le. Prouve ce que j'ai dans ma tête. Je te le suggère pas. Des fois, c'est un peu bizarre, mais prouve ce que j'ai dans ma tête, puis dis-moi que je suis une mauvaise foi, tu sais. Après ça, je m'en souviens pas, puis bon, tu sais, ça devient messy un peu, fait que... T'sais, une déclaration, si tu dis c'est blanc puis ça aurait dû être noir, ça c'est un mensonge. Mais si tu dis je sais pas trop, me semble, monsieur, c'était comme grisâtre un peu. Là, c'est pas la matière à poursuite.
Parce qu'il y a eu la fameuse lettre là, qu'on a vue, qui était pas au courant qu'on allait la voir pendant la commission Charbonneau, où elle avait écrit à Martin Koskinen et François Legault qu'elle était tannée de prendre toutes les balles pour elle.
Elle s'était vidé le cœur.
Ouais.
Ouais. Pareil, Karl Malenfant, il y a eu le fameux courriel qui s'était transféré à lui-même avec la soumission de Deloitte, où il a déclaré « Ouais, là, je suis un peu étourdi. » Puis le juge Galland, il a dit « Je vous rappelle que vous êtes sous serment. »
Ouais. Donc, à 11h30, Galland va être là. Puis toi, à midi, tu vas arriver avec Antonine Iaccarini pour nous donner toute l'information. Donc,
c'est clair.
On va être sur le gun toute la journée, les amis. Autre chose, un 2 minutes là-dessus.
Ben oui.
Hier, j'entends, Charles Milliard qui fait sa première rencontre avec les journalistes, fait un beau discours. Au début, il remercie tout le monde, les gens qui l'ont aidé pendant sa campagne et tout ça. Puis, à un moment donné, il dit un gros merci, bien entendu, à mon conjoint qui a accepté que j'embarque dans cette belle aventure du Parti libéral du Québec. Puis, ça a passé dans le beurre. Puis je trouvais ça correct. Moi, c'est une information que j'avais, là, comme quoi il y avait un conjoint. Fait que je me suis dit, ben coudonc, il est homosexuel. Tu sais, c'est comme Éric Duhem, il est homosexuel. Ils sont capables de faire une belle job pareil. Et à la période de questions, dans le scrum journalistique, il y a un Français qui est arrivé et qui a dit « Est-ce que vous pensez que les Québécois sont prêts à élire un premier ministre gay? » Sérieux, on est-tu encore là en 2026, là, David?
Ben, là, écoute, ça prend un journaliste qui veut juste se rendre un peu intéressant avec une question un peu edgy, là, mais tu sais, je suis comme toi. Puis moi, je le suivais sur Facebook avant, là, ça, depuis longtemps, là, puis... Il y avait des photos en voyage avec son chum, puis on s'en sac.
Ben, il n'y avait rien de caché là, puis avec raison.
Ben non, mais c'est plus un tabou en 2026. Ben non, comment, là,
mais est-ce que ça
ailleurs?
Peut lui nuire dans les régions très éloignées, mettons sur le bord des lignes? Là.
Ben, la réponse plate, c'est que je pense que ça peut avoir un effet. Surtout que ça dépend comment il y a la spin, là, mais le fond québécois, puis là, je ne vais pas faire du clotaire rapport et dire qu'on se fait de l'autoflagellation, mais on est un petit peu conservateur moral. Là. Je l'ai vu dans les consultations publiques que j'ai faites dans des projets, là, puis là, je dirais pas qu'est-ce qui s'est dit là, mais tu sais, des craintes par rapport à la différence, il y en a beaucoup. Fait qu'est-ce qu'il y a des gens qui sont un petit peu plus traditionnalistes, puis peut-être même plus religieux, qui se disent ah, moi, ça, je veux pas sur un gay qui ira le pays, je vais essayer de tout nous rendre gays. Ça se peut, ça, puis tu sais, je veux dire, c'est déplorable.
Ça doit être minime, par exemple?
Ben, je pense qu'il y en a plus qu'on pense.
Ah ouais?
Est-ce que c'est suffisant?
Je dirais, c'est quel pourcentage de la population? Parce que moi, dans ma tête, c'est 2-3%.
Ben, moi aussi, 2-3%, certain.
Ben là, tu sais, je vous invente de quoi, c'est pas scientifique, mais je vous dirais qu'il y a un bon 20%, à mon sens, qui est raciste et ou xénophobe homophobe et tout ça.
Ouais, Carlin ne me tient pas avec ce monde-là.
Ben,
moi non plus. Je les garde loin de mon cercle.
Moi, je me suis rendu compte d'une affaire, OK? Si tu es dans des centres-villes, tu es habitué de côtoyer des gens qui proviennent d'ailleurs.
Ah, t'as tellement un bon point.
Tu peux être habitué de côtoyer. Mettons que tu es dans le quartier gay à Montréal, tu travailles là, mais toi, tu es hétéro. Ben, tu apprends à connaître ces gens-là. Fait que, à un moment donné, ça devient une normalité, là.
Oui.
Mais si tu t'en vas ailleurs, tu sais, j'ai un de mes chums, moi, il est né dans une petite localité. Il est pas né dans une petite... Il a été adopté dans une petite localité. C'était le seul noir de la place.
T'as raison.
Je t'annonce que son primaire, ça a été crissement compliqué. Au secondaire, ça a été le fun parce que là, les filles s'intéressaient un peu plus à lui. Il trippait sur le rap. Mm-hmm. Mais, mais c'est quand tu les côtoies que tu apprends à connaître ces gens-là et dire « Ah, mais crème, ils sont comme nous autres. Ils sont pas différents de nous autres. » Mais si tu vas dans des endroits où il y en a pas ben, ou des endroits où c'est plus religieux, ben là, comme David dit, ça peut ressembler à du 20% de la population.
Ouais, non, t'as raison, parce que je vais juste prendre, dans mon expérience avec les patros, quand on faisait des tournois inter-patros, ben le patro à Montréal, le patro Le Prévost, c'était une large communauté ethnique, là. Tu peux avoir 10, 12, 15 nationalités différentes qui arrivaient avec le patro de Montréal. Puis à Jonquière, ben il y avait une personne d'origine chinoise, puis le reste, c'était tous des Québécois pur laine. Fait que ça faisait un clash. T'sais, eux, ils étaient pas habitués. Nous autres, au Québec, on était habitués.
Ouais.
Fait que nous autres, on vivait pas le clash, mais eux autres, je le sais qu'ils vivaient le clash. Je disais, hein, crime, je regarde le patron à Montréal, c'est pas pendant tout mon patron.
Ouais, tu sais, il y a des gens qui sont plus vieux, qui ont 80, 90 ans, et ils se méfient.
Ils
se méfient des immigrants, ils se méfient des gays. Mais ils vont voter.
Ça se peut que ça nuise un peu.
Mm-hmm. Il y a beaucoup de la nostalgie dans cette braquette-là, puis je veux pas faire de l'âgisme, mais mettons du 60 plus, là, puis ça, encore une fois, je le vois dans les consultations publiques, là, je l'invente pas. Là. Une nostalgie de comment c'était avant. Tu sais, mettons même le slogan là, de Québec comme on l'aime, là. Ben, c'était ça un peu ce fond-là que ça allait chercher, tu sais, de dire que moi, dans le temps, Québec, la ville de Québec, là, on était 250 000, 300 000. J'ai vu l'autoroute de la capitale se construire, puis c'était simple. Dans ce temps-là, on était tous pareils. Puis ce que je vous dis là, c'est pratiquement du verbatim que j'ai entendu. Là. Fait que c'était cette espèce de nostalgie. Puis ça, probablement que c'est forcément tout le temps la même chose. Tu sais, quand tu vieillis, la vie continue à avancer, puis là, toi, tu ralentis ou tu es peut-être moins à la même vitesse. Là, ça te dépasse, mais sacrifice. Tu sais, je reste tout le temps bête, puis je me dis, ben, tabarouette, on n'est plus là pendant tout. Mais ces gens-là, eux, dans le fond, ils ont peut-être même pris leur retraite à 50-55 ans. Puis là, ils sont dans leur petit univers, puis tu sais, leur bulle, il ne faut pas trop que ça change. Là. Fait que c'est ce genre
c'est
de situation-là,
c'est pas nécessairement...
Ça sort.
Mettons que Charles Millière avait été un immigrant. C'est pas nécessairement du racisme, c'est plus de la xénophobie. De la peur de l'étranger parce que t'en côtoies pas.
C'est ça, la différence.
Exactement. Ouais. Hey, on va rester là-dedans, si tu le veux bien, dans ta chronique politique international. Un référendum en Suisse pour plafonner la population à 10 millions, ça implique les immigrants.
Ben oui, exact. Là, parce qu'on le sait qu'en Europe, c'est un enjeu très, très courant et vif, l'immigration, parce que c'est un grand espace sans frontières, là, l'espace Schengen, là, sans vouloir faire de la science politique, ce qui fait en sorte que quand tu rentres en Union européenne, tu rentres une fois, puis après ça, tu peux circuler comme tu veux. La Suisse est au milieu de tout ça. Sont 9 millions de personnes, puis il y a un malaise là aussi par rapport à l'immigration. Dans le fond, il y a un parti là, que bon, la presse le traite de parti de droite radicale. Je ne suis pas allé fouiller dans le programme jusqu'à la dernière virgule pour en déterminer, mais c'est l'Union démocratique du centre, ce qui est un peu paradoxal parce que l'extrême droite n'est jamais au centre, mais bon. Dans le fond, eux, ils veulent faire un référendum sur le nombre total d'immigrants ou de population même du pays. Puis ça, c'est la première fois que je vois ça, vraiment, de dire on plafonne la population totale, fait que même les natalités. Évidemment, là, si ça dépasse 10 millions, ils ne vont pas tuer des bébés, c'est pas ça le point, mais c'est juste de dire qu'à partir de 9,5 millions d'habitants, là, ils vont fermer les valves pour l'immigration. Puis ils vont dire, regarde, ça reste là, puis ça ne se rendra pas plus loin. La Suisse a quand même une bonne immigration assez intensive. Je dirais que ça, à 9 millions de personnes, c'est équivalent au Québec en termes de population. Il a reçu 200 000 personnes l'année dernière, des nouveaux arrivants, dont 26 000 demandeurs d'asile. Donc là, nous autres, on a plus de demandeurs d'asile, mais beaucoup moins d'immigrants là, qui rentrent au Québec. Mais le point étant que, justement, ils veulent fermer ces valves-là. C'est ça la politique de ce parti-là. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en Suisse, le système est vraiment différent du nôtre. Puis ça, je trouve ça vraiment intéressant. Il y a trois façons d'aller consulter la population avec des référendums. Puis nous autres, les référendums, c'est un grand rendez-vous historique qu'on a fait avec la souveraineté. Eux autres, c'est 3-4 fois par année qu'ils font des référendums. Le premier, c'est s'il y a un projet de loi qui passe, il y a 100 jours pour avoir 50 000 signatures pour faire une pétition pour dire « ce projet de loi-là, on va en référendum complet. »
Formidable.
Fait que ça, tu peux plus partir avec un gouvernement majoritaire qui fait n'importe quoi pendant 4 ans.
Exact.
C'est toute la population. 50 000 signatures, ça paraît beaucoup, mais c'est quand même pas tant que ça sur 9 millions.
Non, mais c'est pouvoir au peuple pareil. Là.
Oui, oui. Fait que ça, c'est vraiment intéressant directement sur l'agenda législatif. Le deuxième, c'est vraiment pour... la deuxième façon de faire des référendums, c'est vraiment pour des projets de société majeurs. Fait que on modifie la Constitution, on veut joindre l'Union européenne, on veut faire des traités de libre-échange, des choses comme ça. Ça se fait automatiquement. Donc là, ça, ils n'ont pas le choix d'aller consulter. Puis la troisième façon de faire un référendum, c'est vraiment d'initiative privée. Donc ce qu'on vient de se discuter là avec le parti de l'extrême-centre, là. Donc là, ça prend 100 000 signatures, puis on est parti. Puis ça, c'est sur n'importe quel enjeu, dont l'immigration. Puis là, c'est ça qui se passe en ce moment. Donc ils ont réussi à aller chercher le bon nombre de votes. Puis en juin prochain, ça va être 50 % plus 1. Donc c'est la formule qu'on connaît nous-mêmes. Mais s'il y a 50 % plus 1 des gens qui disent « moi, j'embarque dans cette histoire-là », c'est fini.
Est-ce qu'on pourrait faire ça au Canada?
Ben, il n'y a rien qui nous empêche de le faire.
Parce qu'on a un des plus gros pays au monde. Là. On a des ressources incroyables, mais les gens préfèrent rester au sud du Canada, ce qui fait en sorte qu'on, des fois, dans certains endroits, on se pile les uns sur les autres. Juste à Québec, là, ça, il commence à y avoir du monde en sacrifice là, à Québec. Puis la capacité de Québec de se développer, elle commence à être de plus en plus limitée parce qu'il y a certains secteurs où on veut les conserver puis on veut que ça reste des forêts et tout ça. Mais il va falloir en venir là, nous autres aussi, à un moment donné.
Ben, écoute, une ville a un potentiel de croissance infinie. T'sais, à Québec, on peut devenir une ville de 20 millions si on veut, sauf que là, il faut que tu te construises
un bâtiment. Ouais.
C'est ça, exact. Là, c'est ça le choix qu'on veut ou pas. Puis c'est ça l'intérêt de ce genre d'initiative-là, c'est que justement, c'est un malaise par rapport à la densité, là, à Québec ou ailleurs, peu importe. Là. En ce moment, tu n'as pas de levier autre qu'une élection 4 ans pour faire passer ton message. Donc là, dans la dernière élection, la densité, à peu près toutes les parties étaient favorables à ça. Fait que toi, si tu n'aimes pas ça, tu n'avais comme pas vraiment de voix, à part t'en partir un, puis ça, c'est une paire de manches. Tu sais. Dans un système comme la Suisse, hey, on est à l'échelle de la ville de Québec, c'est beaucoup moins, mais mettons, on est 100 000 au Québec, puis on n'aime pas ça, la densité. Nous autres, on fait une signature, bang, un référendum, ça part. 100 000 signatures, c'est fait. Ça change beaucoup la dynamique, puis les élus, dans le fond, ils peuvent plus partir sur des l'idéologie. Puis la Suisse, dans le fond, pour revenir un peu à leur système, ils ont 26 cantons, là, fait que c'est l'équivalent des petites provinces, mettons, pour le pays au complet, puis il n'y a pas de premier ministre. Donc, c'est pas comme au Québec où le premier ministre, c'est le chef du parti qui a le plus de députés en chambre. Là. Puis là, on voit qu'on est en train de changer de chef, mais on n'a pas élu le premier ministre ou la première ministre qui va sortir de là. Là-bas, c'est un conseil de 7 personnes qui regroupe à peu près toutes les partis politiques. Donc là, ces gens-là, quand ils vont amener l'agenda législatif, dans le fond, dans l'équivalent de l'Assemblée nationale là-bas, bien, il faut que ces 7-là soient d'accord de l'amener, ce projet-là. Fait que là, t'es obligé d'être en consensus, puis t'es obligé de faire des coalitions, dans le fond, parce que sinon, ton idéologie à toi ne passera jamais.
On a des textos qui rentrent concernant, justement, qu'on pourrait plafonner le taux de natalité. Est-ce que c'est vraiment ça ou on travaille juste sur l'immigration?
Bien, Évidemment, le programme d'un parti comme ça, c'est jamais la natalité, c'est tout le temps l'immigration. Sauf qu'il parle de la population au complet.
Puis c'est là, ça, fait que ça pourrait venir l'inclure à un certain moment donné.
C'est ça, mais là, tu gères ça comment quand t'es rendu à 9 999 000, puis là, whoop, t'as un bébé de plus le 1er janvier, là, tu vas pas y mettre une balle dans la nuque, on se comprend?
Non, là. C'est ça.
Fait que là, tu sais, c'est un peu rough, excusez-moi, les taux pour dire des choses comme ça, mais...
Non, mais c'est parce que on l'a vu des courants en Chine passer là-dessus où t'avais le droit à seulement un enfant par couple, puis je pense que... C'est des filles qu'il fallait que tu caches parce que tu n'avais plus le droit d'accoucher de filles. Il y a eu là, un certain moment comme ça. Là.
Ben, l'UDC ne va pas jusque-là, mais ma compréhension, c'est qu'à 9 500 000 personnes, on ferme l'immigration. Puis après ça, si on se rend à 10 millions en natalité, ben tant mieux. Sauf que le taux de renouvellement, là, de natalité, de renouvellement, c'est à peu près 2,2 de mémoire. Là. Puis la Suisse n'est pas là pantoute. Là. Je pense que de mémoire, c'est 1,7 ou quelque chose du genre. Okay. Ils n'ont pas assez de natalité pour faire grandir la population naturellement, un peu comme le Québec. Tous les pays d'Occident ont à peu près la même réalité, finalement. Le taux de natalité a cassé parce qu'on n'en fait plus d'enfants, qu'est-ce que je te dise. Fait que là, ben, si on veut que la société soit se maintienne avec un niveau de service ou même continue à progresser économiquement, ça va passer par l'immigration.
Okay, juste être sûr, en Suisse, il n'y a pas de premier ministre.
Non, il y a un chef du conseil là, que je te parle.
Oui.
Mais c'est pas officiellement un premier ministre.
OK.
Fait que les 7 élisent leur chef, dans le fond, dans le conseil de 7. Là. Ils disent c'est lui qui va être notre genre de porte-parole, si tu veux. Mais il n'y a pas le contrôle de l'agenda comme un président comme aux États-Unis ou comme un premier ministre au Québec.
OK.
Puis ça change la dynamique beaucoup, ça. Puis à ma connaissance, il y a un seul autre pays, ou peut-être deux. Là. L'Allemagne est souvent en coalition, mais pas nécessairement par choix. Puis en Belgique, c'est devenu tellement un mess politique que ça a fini qu'il n'y a comme plus personne qui gère rien, mais c'est une coalition pareille.
Puis c'est-tu des mandats?
C'est
des mandats de 4 ans?
Le détail de tout ça, il faudrait que j'aille fouiller un peu plus dans cette structure de conseil-là. Là, je peux pas te répondre live de même.
Mais je trouve pas ça fou parce que le peuple a plus de pouvoir. T'sais, on va le voir là, aux États-Unis avec les midterms, là, qu'est-ce que ça va avoir sur Donald Trump. Mais exemple, on prend un Bruno Marchand. Là, une fois que tu le mets à la tête de la ville de Québec, tu es sûr et certain que tu es pogné avec ou tu l'as pour 4 ans?
Bien, surtout majoritaire comme ça, 18 conseillers.
Puis, tu sais, j'ai toujours demandé, moi, est-ce qu'il y a des recalls? Si ton politicien ou ta politicienne, peu importe que ce soit au municipal, au provincial ou au fédéral, elle te fait 50 propositions, puis à l'intérieur de 2 ans, il y a 2 propositions qui ont passé, puis les autres, ben, ont comme été oubliées. Ben, après 2 ans, on devrait y aller comme on retourne en élection.
Même un recall à travers le même projet. Si le tramway est à 13 ou 15 milliards, comme Steve Lavoie nous l'a laissé planer en Chambre des communes.
Avec la
tu fais le référendum.
Mais on ne sait pas si c'est une erreur. On ne sait pas s'il y a eu accès à des chiffres que le maire Marchand a eu accès.
C'était sur ses notes, par contre, données par son équipe. Ça, Pierre Paulus pouvait aller les demander.
En même temps, le staff politique, des fois, tu peux avoir du staff à Ottawa qui n'ont aucune idée de ce qui se passe à Québec. Là, surtout que M. Lavoie avait dit, non, mais ça a fait la manchette à Québec, le 13 milliards, alors que ça n'a jamais fait la manchette. David Chabot, ça a été un plaisir, mon ami.
Hey, juste la réponse, c'est d'un mandat d'un an renouvelable pour le... Dans le fond, il appelle ça le président de la Confédération suisse, le comité des 7 que je te parle. Okay. Donc, c'est des mandats d'un an renouvelables. Il faut qu'ils changent à chaque fois. Là.
Fait que ça fait pas un job, ils le mettent dehors. Yep. Une bonne affaire. Merci beaucoup.
Merci, boys.
Bye-bye.
Pour nous informer de ce qui se passe dans